Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le journal et on commence avec les titres. Le président indonésien Joko Widodo a condamné fermement le bombardement au Sri Lanka. La lutte et la pensée de Kartini ont été une source d'inspiration. Les femmes indonésiennes sont encouragées à participer à l'industrie aéronautique. Le prix mondial est la capitale pour améliorer l'artisanat de Gianyar. La Commission électorale générale d'Indonésie, ou KPU, évaluera le système de tenue d'élections simultanément. L'Autorité de services financiers, ou OJK, développe le financement de l'économie maritime. Chers amis, écoutons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a fermement condamné les attentats à la bombe perpétrés à divers endroits à Colombo, Sri Lanka, dimanche. Le président, par des réseaux sociaux dimanche au nom de tout le peuple indonésien, a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement sri-lankais et à la famille entière des victimes. Dans son communiqué de presse, le ministère indonésien des Affaires étrangères a indiqué que l'ambassade de la République d'Indonésie à Colombo continuait de surveiller l'évolution de la situation et s'était coordonnée avec les autorités de sécurité, les hôpitaux et l'association des citoyens indonésiens. Le gouvernement indonésien estime que le gouvernement sri-lankais peut bien gérer la situation et également disposer à fournir l'assistance nécessaire. Le gouvernement indonésien appelle les citoyens indonésiens au Sri Lanka à rester vigilants et prudents et à suivre les instructions des autorités de sécurité locales. La ministre indonésienne des Finances, Madame Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que la lutte et les idées de Raden Ajeng Kartini étaient une source d'inspiration qui restait pertinente dans les conditions actuelles. Sri Mulyani, dimanche commémorant le jour de Kartini à Jakarta, a expliqué que la lutte de Kartini n'était pas seulement pour elle-même, mais également pour les autres femmes qui souhaitaient obtenir l'égalité des droits et des chances de progresser et de jouer un rôle positif dans la famille, société, pays et le monde. Rosmaya Hadi, le vice-gouverneur de la Banque d'Indonésie, a déclaré que les héros nationaux Raden Ajeng Kartini a changé le paradigme mondial contre la femme par des centaines de lettres qu'elle avait écrites pour le mouvement des femmes. Aujourd'hui, au milieu du développement rapide de cette époque, le rôle de la femme se développe également dans la civilisation mondiale. Kartini a encouragé l'égalité des droits des femmes pour contribuer de manière significative au développement du pays. Polana Banguningsih Pramesti, directrice générale du transport aérien du ministère indonésien des Transports, a encouragé la participation des femmes indonésiennes au secteur de l'aviation. Ceci est conforme aux résultats de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de l'aviation civile, selon lesquels la comparaison entre les hommes et les femmes dans l'industrie aéronautique doit être la même en 2030. Par conséquent, coïncider avec la commémoration de la journée Kartini le 21 avril, les femmes du secteur de l'aviation doivent progresser avec le soutien du gouvernement. Polana a affirmé à Antara à Jakarta dimanche que la participation des femmes à l'industrie aéronautique était devenue importante car elle avait contribué à soutenir le pays. Le secteur de l'aviation est l'un des secteurs stratégiques qui contribue à la croissance économique du pays. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le prix mondial, à savoir la ville mondiale de l'artisanat, sera la capitale pour améliorer l'industrie de l'artisanat dans la région de Gianyar, Bali. À la fois pour l'artisanat, les travailleurs et le marketing national et international. Cela a été dit samedi par Madame Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra, la présidente du Conseil national de l'artisanat régional ou de Kranas, de la région de Gianyar à Gianyar samedi. La région de Gianyar recevra le prix en tant que ville mondiale de l'artisanat. Le prix mondial sera remis par le président de la ville mondiale de l'artisanat, Gada Hijawi Kudumi, et la présidente du Conseil national de l'artisanat régional, Mufida Yusuf Kala. Afin d'obtenir une valeur ajoutée, le Conseil national de l'artisanat régional de Gianyar a organisé une formation pour renforcer les capacités des entrepreneurs créatifs en invitant le célèbre dessinateur Musa Widiatmojo. En Indonésie, seulement deux villes qui ont reçu le prix de ville mondiale de l'artisanat, à savoir Yogyakarta et Gianyar. La Commission électorale générale d'Indonésie, ou KPU, va évaluer le système de tenue d'élections simultanément après qu'il y a eu des cas qui ont tué des organisateurs d'élections dans plusieurs régions. Cela a été dit par le président de la KPU indonésienne, M. Arief Budiman, à la presse à Jakarta samedi. Il a ajouté que son bureau enregistrait encore le nombre d'officiers du groupe d'organisation de scrutin en Indonésie qui sont morts quand ils font le processus de vote et le décompte des voix d'élection 2019. Selon M. Arief, la majorité des responsables de l'organisateur de l'élection dans la région sont morts à cause de la fatigue et de la crise cardiaque. L'autorité du service financier ou OJK continuera à encourager le programme de développement de financement durable à orienter le développement social, des impacts environnementaux et sociaux de la communauté. Cet effort est l'une des formes de mise en œuvre des réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale sur le développement de financement durable. Le président du Conseil de commissaires de OJK, M. Wimbo Santoso, a déclaré dans une déclaration écrite acceptée par Republika Online dimanche l'importance du financement innovant comme système de financement mixte visant à couvrir le manque de financement de développement économique maritime. L'autorité de services financiers, en synergie avec le ministère et institutions concernées, y compris PT Sarana Multi Infrastructure, pour développer le programme. Selon lui, pour les pays en développement comme l'Indonésie, il est très important d'encourager la croissance économique à créer une société plus prospère, notamment en construisant des infrastructures dans différentes régions. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le commentaire intitulé « Les femmes indonésiennes pour la génération d'or indonésienne ». Hier, le 21 avril, toute l'Indonésie a célébré le jour de Kartini. Son nom à lui seul est le symbole de l'émancipation féminine indonésienne. Cette commémoration a été établie basée sur 12 jours de la naissance d'une femme noble javanaise, Ibu Raden Ajeng Kartini. À son époque, Kartini n'a pas eu la même chance que les hommes d'étudier. Dans sa correspondance avec plusieurs amis aux Pays-Bas, elle a exprimé son désir de faire progresser les femmes autochtones. Kartini a décrit les souffrances des femmes javanaises en raison d'un internement coutumier qui ne pouvait étudier à l'école, devait être isolé, marié à des inconnus et devait être disposé à être polygame. Elle était déterminée à faire progresser les femmes indonésiennes. Selon Kartini, l'éducation des femmes autochtones peut être réalisée par l'éducation. Pour réaliser ses idées, elle a commencé par créer une école pour filles dans son lieu de naissance, Jepara. À l'école, on a été donné des leçons de couture, la broderie, la cuisine, etc. Et comment sont les femmes indonésiennes aujourd'hui? Les femmes indonésiennes ont eu les mêmes chances que les hommes. Dans presque tous les secteurs, les femmes indonésiennes jouent un rôle et deviennent une chef d'État. Madame Megawati est l'une des femmes à avoir réussi à devenir chef de l'État. Megawati a été la cinquième présidente de l'Indonésie du 23 juillet 2001 au 20 octobre 2004. Actuellement, 8 femmes indonésiennes font partie du cabinet de travail du président Joko Widodo. Elles sont la ministre chargée de la coordination du développement humain et de la culture, la ministre des Finances, la ministre des Affaires étrangères et des Pêches, la ministre de la Santé, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfance, la ministre de l'Environnement et des Forêts, et aussi la ministre des entreprises appartenant à l'État. Les Indonésiennes ont réussi à obtenir des chances égales à celles des hommes dans divers domaines, mais l'esprit de combat des Indonésiennes doit continuer à être stimulé. Comme l'a appelé le président Jokowi, les femmes indonésiennes continuent de promouvoir un esprit de combat afin de bâtir des familles, des communautés, des nations, et de faire avancer la prochaine génération. Conformément à sa nature de mère, les femmes indonésiennes ont maintenant des tâches qui ne sont pas légères parce que l'Indonésie recevra un bonus démographique pour la période 2020 jusqu'à 2035, qui atteint son apogée en 2030. Les femmes indonésiennes doivent préparer de grands êtres humains qui feront progresser l'Indonésie. Préparer une génération de potentiel en bonne santé, intelligent et avoir une bonne moralité. Les femmes indonésiennes doivent être en bonne santé pour donner naissance à une génération en bonne santé, entre autres, et exempt de retard de croissance. Les femmes indonésiennes sortiront l'Indonésie du quatrième pays avec le taux de retard de croissance le plus élevé dans le monde. Environ 9 millions ou 37% des enfants de moins de 5 ans présentent un retard de croissance. La sensibilisation des femmes indonésiennes à prêter attention aux enfants et à leurs familles peut améliorer l'indice des ressources humaines. En 2018, la Banque mondiale publie un rapport sur l'indice de capital humain. Dans le rapport, l'indice indonésien des ressources humaines est de 0,53, ce qui le place au 87e rang sur 157 pays. L'indice des ressources humaines reflète la productivité des enfants nés aujourd'hui en tant que futurs travailleurs, en tenant compte de leur santé et de leur éducation. Le rôle principal des femmes indonésiennes dans la création de générations productives doit continuer à être mis en avant pour que la génération dorée de l'Indonésie, à savoir la future génération indonésienne, qui a une intelligence en 2045, soit réalisée. L'Indonésie possède des ressources humaines productives, innovantes et bonne interaction sociale et une civilisation supérieure. Les femmes indonésiennes doivent se renforcer pour maintenir la force de la nation indonésienne. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 22 avril, le jour de la Terre est célébré internationalement. Le jour de la Terre est célébré tous les 22 avril. Cette célébration a pour but de sensibiliser le public aux problèmes environnementaux existants. Le Jour de la Terre a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970 aux États-Unis. À cette époque-là, des millions de personnes, notamment des écoliers et des étudiants, se sont rassemblés pour un défilé. Donc, l'un comprenait un programme d'éducation environnementale. Le sénateur Gaylord Nelson du Wisconsin a été le premier à créer le Jour de la Terre le 22 avril et finalement réagit de manière positive aux Nations Unies. Actuellement, la commémoration du Jour de la Terre au 22 avril a été célébrée dans plus de 190 pays. Le 22 avril 1994, le 37e président des États-Unis, Richard Milhous Nixon, est décédé. Il a été le 36e vice-président des États-Unis de 1953 jusqu'à 1961 et le 37e président des États-Unis de 1969 jusqu'à 1974. Il était le premier président des États-Unis à démissionner de ses fonctions. Sa démission faisait suite au scandale de Watergate à la Maison-Blanche. Et le président Nixon a également annoncé la fin de la guerre du Vietnam qui avait coûté la vie des milliers de soldats le 23 janvier 1973. Richard Milhous Nixon est décédé à New York, aux États-Unis, le 22 avril 1994. Le 22 avril 1997, la fin d'otages pour la résidence de l'ambassadeur du Japon au Pérou. Après 126 jours de drame en otage, le 22 avril 1997, le président Fujimori a finalement donné son feu vert pour organiser une opération de libération. Avant la tenue de l'opération de libération, les otages ont été informés du plan en secret 10 minutes avant l'invasion des forces spéciales. Après avoir fait exploser le sol de la résidence de l'ambassadeur du Japon, des membres des forces spéciales péruviennes ont fait irruption. Au cours de l'opération militaire qui a duré environ 40 minutes, les 14 membres de Tupac Amaru ont été tués, y compris son chef, Nestor Serpa Cartolini. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua pasti berubah. Andai saja ada kesempatan kau berikan kita masih bersama.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Propriétaire de mon cœur, chantée par Calvin Jeremy. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulée Les élections 2019 sont pacifiques, les hommes d'affaires sont plus optimistes. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre Les élections 2019 sont pacifiques, les hommes d'affaires sont plus optimistes. Les Indonésiens ont tenu les élections présidentielles et législatives 2019 mercredi dernier. Bien que plusieurs régions aient annulé le vote pour diverses raisons, l'élection générale s'est déroulée de manière sûre et pacifique. Le président de la Chambre indonésienne du commerce et de l'industrie, Rosan Ruslani, a confirmé jeudi à Jakarta que le monde des affaires s'était félicité des élections 2019. Selon lui, le monde des affaires y voyait en bon élan pour rester optimiste car les élections s'étaient déroulées de manière pacifique et en toute sécurité. En outre, Rosan est également optimiste sur le fait que l'investissement augmentera au second semestre 2019. Cela est dû à la tenue sûre d'élections afin de renforcer la confiance des hommes d'affaires dans leurs activités commerciales. Il a ajouté que la stabilité économique de l'Indonésie se situait toujours autour de 5%, même si l'économie mondiale se ralentit et que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se poursuit. Il espère que les investissements augmenteront au second semestre en raison de la stabilité économique, d'une bonne sécurité et la certitude de développement prévisible. Dermina Sutton, ministre chargé de la coordination des affaires économiques, a déclaré auparavant que les investisseurs investiraient en Indonésie après les élections 2019. L'investissement serait plus contraignant parce que, jusqu'à présent, de nombreux investisseurs attendaient les résultats des élections 2019. Le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, est également optimiste que les performances de l'industrie manufacturière se développeraient de manière plus optimale après les élections générales 2019. Le monde des affaires et les investissements vont augmenter car l'Indonésie est l'un des pays démocratiques les plus matures. Airlangga a déclaré que l'augmentation des activités de fabrication avait été prouvée en particulier depuis la fin de la crise économique en 1998 et continue à durer jusqu'à 5 fois l'élection générale. Certaines industries manufacturières telles que la distribution d'aliments et de boissons dépassent les 9%. Actuellement, d'autres industries manufacturières comme les métaux, les vêtements et les textiles, les produits pharmaceutiques, les jouets pour enfants, les cosmétiques et les vêtements devrait correspondre à la croissance économique. Afin de soutenir les performances de l'industrie de transformation, le ministère de l'Industrie a organisé le Sommet indonésien de l'Industrie, un forum de consolidation de parties prenantes afin de définir des étapes stratégiques visant à encourager la transformation numérique de la version 4.0 dans le secteur manufacturier. Secrétaire, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Retombe amoureux, chantée par Viendi Savil. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à voyager à Sumatra du Nord pour visiter le musée de Pusaka de Nias ou le musée du patrimoine de Nias. Chers auditeurs, le musée de Pusaka Nias est un musée privé et le seul musée de l'île de Nias. Si vous visitez le musée, vous obtiendrez plus de détails sur les patrimoines culturels de Nias qui sont vraiment uniques et diversifiés. Le musée présente des collections intéressantes comprenant 6000 artefacts uniques. Les collections du musée ont été acquises auprès de particuliers, de fondations et même de musées d'outre-mer, tels que ceux d'Allemagne et des Pays-Bas. Le musée est reconnu comme l'un des meilleurs musées d'Indonésie. En outre, le musée sert de centre de préservation de la culture de Nias. Le centre de préservation culturelle de Nias propose diverses activités telles que la collecte d'objets historiques, la recherche, la publication de livres sur la culture de Nias, la gestion de bibliothèques, la mise en place de formations et d'ateliers sur la culture, la documentation visuelle et audiovisuelle, la promotion des destinations touristiques de Nias, etc. Le musée de Pusaka Nias est la principale attraction touristique de Gunung Citoli. La plupart des collections du musée de Pusaka Nias sont liées à la culture et à l'histoire de Nias. Ce musée est situé sur le fond de mer, face à l'océan Indonésien dans la ville de Gunung Sitoli. À 20 km de l'aéroport de Binaka et à seulement 750 mètres de Bandar Laut Pelabuhan Angin. Le musée propose également une exposition qui présente d'importants artefacts. Elle se déroule dans 4 grands pavillons. L'exposition est ouverte au public tous les jours. Les visiteurs peuvent élargir leur compréhension de la culture et de l'histoire de Nias à travers l'exposition. Chers auditeurs, Gunung Sitoli est la porte d'entrée de l'île de Nias. L'accès à Gunung Sitoli depuis l'aéroport de Binaka est stratégique. On peut accéder à la ville par divers itinéraires à travers Medan. Vous pouvez voler par Merpati Airlines ou SMAC depuis Medan. Au moins, il y a 2 vols par jour. Le billet d'avion coûte environ 500 000 rupiah. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir avec le titre « Visitez le musée de Pusaka de Nias ou le musée de patrimoine de Nias ». Demain, nous nous retrouvons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Voice of Indonesia.
Dengar jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti sampaikan salam. Ikut bicara, sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora. Jarak tujuan terlihat dekat memandang garis batas di lautan yang membiasku kan datang sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara kawan cama ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora. Ku lalui tanah air dan udara. Aku kan datang, aku kan datang.
Sampaikan salam dari hati lalui tanah air udara kau.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Malik et d'Essentiel intitulée Aurore. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Di mana alamat rumahmu ?» ou en langue française « Où est l'adresse de votre maison ?» Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Di mana alamat rumahmu ?» ou en langue française « Où est l'adresse de votre maison ?» Tony ira chez Joko. Il demande l'adresse de la maison de Joko.
Joko, di mana alamat rumahmu?
Di Jalan Garuda, nomor 5 Sleman.
Oke, besok aku kesana.
Oke, aku tunggu ya.
Secrétaire, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumahmu? En français, où est l'adresse de votre maison? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Rumahmu. Rumahmu. En français, votre maison. Di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumahmu? En français, où est l'adresse de votre maison? Jalan Garuda nomor 5, Sleman. Jalan Garuda nomor 5, Sleman. En français, Rue Garuda numéro 5, Sleman. Besok aku kesana. Besok aku kesana. En français, demain j'y vais. Aku tunggu ya. Aku tunggu ya. En français, j'attends. Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? En français, où habites-tu? Kantor. Kantor. En français, bureau. Pour connaître l'adresse de quelqu'un, vous pouvez demander di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumahmu? En français, où est l'adresse de votre maison? Si vous voulez connaître l'adresse du bureau, demandez di mana alamat kantormu? Di mana alamat kantormu? En français, où est l'adresse de votre bureau? Pour répondre à cette question, par exemple, dites Jalan Garuda nomor 5 Sleman. Jalan Garuda nomor 5 Sleman. En français, Rue Garuda numéro 5 Sleman. Autre exemple. Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? En français, où habites-tu? Alamat rumah saya di Jalan Aster nomor 2 Senayan, Jakarta. Je répète. Alamat rumah saya di Jalan Aster nomor 2 Senayan, Jakarta. En français, l'adresse de ma maison est sur la rue Aster, numéro 2, Senayan, Jakarta. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Joko, di mana alamat rumahmu?
Di Jalan Garuda, nomor 5, Sleman.
Oke, besok aku kesana.
Oke, aku tunggu ya.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
senyum. Tak pernah kukira kau begitu cepat memikirku tanpa basa-basi. Setiap kau ada rasanya hanya memikirku tanpa basa-basi. Setiap kau ada rasanya hanya
Gritov, c'était la chanson intitulée Près de chez toi, chantée par JB et Petit. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. C'est Gritov, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans le magazine Musica. Cette édition présente des informations sur la chanson de Keroncong intitulée « Bunga Teratai », en français « La fleur de lotus ». Les souvenirs du passé peuvent venir à tout moment, comme la poésie dans cette chanson. La fleur de lotus rappelle aux souvenirs du passé. Souvenirs du temps passé avec papa, pêcher ensemble au bord du marais, qui, au milieu, fleurit de belles fleurs de lotus rouges et blanches. Les oiseaux qui volent s'ajoutent au magnifique jardin de fleurs de lotus. Alors, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson de Bunga Lotus, ou en français, La fleur de lotus, chantée par Nining Yatmin.
Taman bunga
Of Indonesia.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous. Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.